Bonjour à tous, c'est François au micro. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une heure de pur rock et de hard, ceux des millésimes 68 à 83. Autrement dit, le seul rock qui vaille vraiment, évidemment. Il y a aux origines les précurseurs, les fondateurs, qui, passé le milieu des 60s, vont incarner autant de pierres angulaires sur lesquelles le rock va se diversifier et se ramifier. Du blues simplifié, dont naît le rock des origines, va se développer une jungle de styles, notamment au début des années 80 avec le speed metal, le power metal, le glam, le death, le black, thrash, gothique, le progressiste, le doom, viking ou encore le math metal. Imaginez inclure des formules de mathématiques pour jouer du rock. Les pères fondateurs, eux, étaient loin de tout ça. Parmi ceux-ci, il y a les Californiens de San Francisco, formés en 67, Blue Cheer. En 68, Blue Cheer migre à Boston et commence alors à se vanter d'être les musiciens qui jouent en concert le plus fort au monde. Novateurs, ils le sont pour le hard et même approchent déjà le punk rock avec un son qui n'est pas sans rappeler celui des Stooges, avec des dissonances assumées. On compte 6 excellents 33 tours entre 68 et 71, tous enregistrés sous acide, avec en contrepartie un rock assez brouillon mais très énergique. Alors c'est parfois assez difficile à écouter, mais le groupe compte dans l'histoire du hard. Il y a des coups de génie, comme la reprise sur leur premier LP du hit de Cochrane, Summertime Blues. On est à Boston en 68 pour découvrir le disque Vincebus Irruptum de Blue Cheer et Summertime Blues qui fit un tube mondial avec eux jusqu'à atteindre la 14e place des charts américains. To raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick, he said. What am I gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I've got to take the weeks, I've got to have my fine vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, take this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I
gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Wow, there ain't no cure.
On reste aux États-Unis dans ces années-là, où la scène art naissante foisonne de groupes inspirés qui bousculent tous les codes. Third Lord Baltimore fait partie de cela. La bande émerge en 68 dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, à partir, comme souvent, de copains de lycée. Ils répondent à une petite annonce de la maison Polygram, qui cherche de nouveaux talents. Ils sont alors confiés à Mike Apple, le futur découvreur de Bruce Springsteen. Sir Lord Baltimore entre en studio et travaille notamment dans celui d'Hendrix, Electric Ladyland, en compagnie de l'ingénieur du son du virtuose Eddie Kramer. Les Pink Floyd, en visite chez Hendrix, sont, raconte la légende, bluffés par le talent de Sir Lord Baltimore. Mais c'est Kiss qui seront les plus fanatiques de ce groupe et leur fera la meilleure publicité. Il n'y a que deux albums de ces musiciens, en 70 et 71, mais Sir Lord Baltimore donne, de façon assez définitive, la meilleure définition du hard, une voix hargneuse, des riffs très lourds, des solos virtuoses. Leur chef-d'œuvre, c'est le thème Kingdom Come, 6 minutes 40 de pur hard, qui est le titre de leur premier vinyle. La quintessence du rock américain est Kingdom Come, en 70, par Sir Lord Baltimore.
Come my kingdom.
Notre séquence de rock sudiste du mois à présent, on reste forcément aux États-Unis pour découvrir les Texans Ultra. Ce groupe phare de Sound and Rock s'appelle initialement Homer et devient Ultra en 75 pour enregistrer jusqu'en 77. Pour tourner, Ultra fait un album promotionnel, éponyme, qui sort en 75. Pas moins de 16 titres, condensés de guitares rageuses et d'énergie. Alors il n'y a pas d'hymne, façon Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, mais un talent indéniable, une urgence à jouer, une frustration exubérante chez ces Texans. On est tout à fait proche du son de Molly Hatchett. C'est très bon, jugez-en vous-même. Page rock sudiste dans 15 on the Rock et les peu connus Ultra de San Antonio, Texas. Le thème est intitulé « City on Ice ».
In a city that's built on ice, wouldn't a heart to heart be nice? A soul to soul can ward off the cold. You thought about jumping on some wagon, you didn't stop what's dragging. Time.
Demeurons outre-Atlantique pour notre séquence live du mois, avec laquelle on passe la frontière nord des États-Unis pour rejoindre le Canada. Là-bas, dès 69 à Toronto, un groupe a beaucoup fait parler de lui, il s'agit de Rush. Pour exister, Rush crée son propre label en 73 et grave son premier 33 l'année suivante, Rush d'ailleurs, un disque indispensable. Au tout début, jusqu'en 75, le groupe joue plutôt un hard boogie classique, façon AC/DC, avec un guitariste très virtuose qui développe des riffs incisifs. Puis Rush refuse de se laisser enfermer dans un rock trop simpliste et développe ensuite un hard plus musical, quasi symphonique et progressif. On témoigne tous leurs sets sur scène dès le milieu des années 70. Ce sont alors des stars internationales, adulées partout dans le monde. En 81, une tournée importante les fait revenir au Canada, où ils enregistrent l'album en concert « Exit, Stage Left ». Je tire de ce live un thème typique du hard progressif de Rush, c'est « YYZ », près de 8 minutes de rock sur scène, pour notre live du mois, avec ces Canadiens très imaginatifs. We'll be right back. Un hommage à présent. On a appris le 2 février dernier le décès à l'âge canonique pour un rocker de 75 ans de Wayne Kramer, le guitariste du groupe MC5. MC5 est considéré comme l'un des pères fondateurs aux côtés des Stooges du rock garage et les inspirateurs de ce que sera le punk. Kramer était un pote de lycée à Détroit de Fred Smith, lui aussi guitariste. Les deux ados s'essaient dans plein de styles et nombre de pubs. Ils créent MC5 au milieu des années 60. Peu de gens le savent, mais le nom MC est une référence à l'industrie automobile de Detroit. M pour Motor et C pour City. Le line-up de la bande, c'est deux guitaristes électriques, un bassiste, un batteur, un chanteur. Le premier album, un live, Kick Out the Jams, sort dès 69. Le son, mélange de hard et de proto-punk, indispose la critique. Rolling Stones dénonce même un disque, je cite, « ridicule, ennuyeux, prétentieux ». Il est aujourd'hui vénéré par tous les amateurs du genre. L'année suivante, sort leur premier 33 studio, Back in the USA. Aujourd'hui adulé comme le meilleur du groupe. Alors j'extrais pour vous le thème Tonight, les MC5, donc en 70, pour se souvenir du lead guitar Wayne Kramer, tout juste décédé. De Détroit aussi, exactement dans la même veine, il y a au même moment les Stooges d'Iggy Pop. Un groupe qui se considère avant tout comme un gang, une bande de crétins, c'est eux-mêmes qui disaient ça, c'était revendiqué. À partir de l'ennui de la vie dans une banlieue sordide d'une métropole industrielle américaine, ils vont porter le rock à un degré d'intensité rarement égalé. Leur influence est majeure sur toute la sphère punk, notamment chez les Sex Pistols, et grunge pour Nirvana bien sûr. Jack White prétend que les Stooges est le meilleur groupe de tous les temps. Sur leur premier album de 69, Deux Pépites, sorti d'ailleurs en single, c'est 1969 et puis I Wanna Be Your Dog, qui devient un hymne du rock urbain des déclassés américains. Notre séquence hymne du mois, donc, 1969, les Stooges, I Wanna Be Your Dog. Vous êtes sur Radio MDM pour 15 on the Rock, le meilleur du hard et du rock pour la quinzaine d'années 1968-1983. Il est temps de faire une pause dans ce déluge de décibels pour faire la part belle aux harmonies plus souples. C'est notre page mensuelle de soft rock que je suis allé chercher auprès des dandies de Roxy Music. En 72, sort un ovni musical totalement improbable, fruit de la recherche esthétique très ambitieuse d'un professeur de céramique qui donne des cours dans un pensionnat de jeunes filles. Ça s'invente pas, c'est Brian Ferry. Ce fils de mineur a une vision novatrice de la composition. Il cherche le syncrétisme entre le jazz qu'il fascine, le classique et l'électro qui naît en Angleterre. Son génie est aussi de s'entourer de jeunes gens visionnaires et hors normes, comme Brian Eno au clavier et à la production, ou encore Phil Manzanera aux guitares. Le dandy Ferry fait le pari d'un son ultra travaillé, très sophistiqué et chic, qui va en plein contresens d'une époque, en totale floraison de mouvements hippies. L'album éponyme Roxy Music n'est enregistré qu'en 2 semaines seulement pour des raisons économiques. La couverture est une photo d'une ex de Keith Richards dans une pose que la morale étouffante de notre époque nous interdirait aujourd'hui. Le disque est un vrai chef-d'œuvre que le critique Philippe Manœuvre a intégré dans son recueil La discothèque idéale, les 101 disques qui ont changé le monde. Notre séquence soft rock avec Roxy Music 1972. Le tube tout d'abord, Virginia Plain, suivi d'un titre un peu plus confidentiel, 2HB.
So chic to the revel of we babies of the mountain streamline. Midnight you can see in the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the moon look the same. So me and you, just we two, got to search for something new.
We'll be right back. I was moved by a screen dream. Celluloid pictures of living. Your death could not kill.
Après le son très élaboré de Roxy Music, on revient à du pur hard classique avec un extrait du second album de Judas Priest, Sad Wings of Destiny. Il est enregistré également en deux semaines, pour des raisons aussi économiques, en décembre 1975, alors que les musiciens qui ont sorti leur premier 33 tours en 1974 ne sont pas encore des professionnels du hard. Ils sont d'ailleurs jardiniers, ouvriers et livreurs de colis. Sad Wings of Destiny est à mon avis le meilleur album des rockers de Birmingham. C'est aussi le favori de leur chanteur Rob Halford. La pochette est sublime. Le peintre anglais Patrick Woodroffe a représenté un ange déchu dans les flammes de l'enfer qui porte autour du cou la croix blanche qui devient l'emblème du groupe. Décembre 1975, les studios Rockfield au Pays de Galles et Judas Priest pour le thème Genocide. Thank you.
after sin, I have endured. Yet the wounds I bear are the wounds of love.
Pour clôturer notre émission, vous en avez l'habitude, on se penche du côté des pépites oubliées. Des groupes très créatifs ont aperçu les lueurs du succès, ont même réussi à enregistrer, puis ont sombré aux oubliettes du rock. En 69, dans la petite ville anglaise de Luton, naît Sweet Slag, mot à mot les douces scories ou les doux déchets. C'est d'ailleurs une photo de scories industrielles qui illustre leur unique LP publié chez President en 71. À la tête de Sweet Slag, un musicien virtuose, autant guitariste que violoniste, qui a un penchant pour le jazz, c'est Mick Kerensky. Il décrit ses compositions comme étant des thèmes, je le cite, de jazz rock de guérilla. Leur producteur clame haut et fort que leur 33 tours Trekking with Close-Ups sera le succès de l'année 71 et bien sûr, ça n'a pas du tout marché malgré le nombre considérable de scènes qu'enchaîne la bande. Cette déconvenue aura raison de ce gang très doué, ultra éphémère. Et vous savez quoi ? Le leader du groupe se fait embaucher comme directeur du traitement des déchets de Luton et sera même ensuite élu au conseil du comté de Bedfordshire. Comme quoi, le rock mène véritablement à tout. Notre séquence pépite oubliée pour conclure donc, Sweet Slag en 71 avec l'original Twisted Trip Woman. 15 on the Rock, c'est terminé. Je remercie Arnaud pour la réalisation de l'émission. C'était François Micro. Restez fidèles à 15, écoutez du rock. Ça vous évitera de choisir entre Pomme et Juliette Armanet. Salut les amis.